Donc je suis Karim Amou, l'un des membres du comité d'organisation du colloque conçu pour durer perspective francophone sur les musiques hip-hop. Et je donne la parole tout de suite à Madame Laplace, représentante du ministère de la Culture, qui est l'un des soutiens majeurs qui a permis l'organisation de ce colloque. Merci.
Bonjour à tous. Je ne vais pas être très longue dans mon propos, puisque je suis vraisemblablement la seule non spécialiste du hip-hop qui va prendre la parole au cours de ces trois jours. Je dirige en fait au ministère de la Culture un service qui est transversal et qui s'occupe notamment des questions de recherche, de prospective et d'accès à la culture pour tous. Donc je ne suis pas au sein de la Direction Générale de la Création Artistique, qui est la direction qui a le plus vocation à soutenir les mouvements esthétiques nouveaux tels que le hip-hop. Mais j'ai néanmoins accepté de venir parce qu'il nous est apparu important non seulement d'être des partenaires du colloque, mais d'être aussi physiquement présents pour dire à quel point nous saluons cette initiative et nous la trouvons intéressante. C'est extrêmement réjouissant qu'un groupe de 6 jeunes chercheurs ait décidé de se lancer dans ce colloque et de parler de la culture hip-hop qui fait bel et bien partie de la culture française et maintenant depuis 30 ans. Nous le disions avec mon voisin de droite, qui est le directeur de la Maison des Métallos. Peut-être qu'une particularité de ce mouvement-là, c'est qu'il s'est beaucoup développé par la transmission, par l'informel, et qu'il rentre, notamment grâce à ce colloque, dans une phase d'institutionnalisation qui est indispensable sans doute, et qui traduit aussi ce qui est exprimé dans le titre, à savoir qu'il commence à faire partie du patrimoine culturel, ce qui est un peu troublant pour ceux qui, comme moi, l'ont vu naître dans les années 80. Mais c'est ainsi. Nous sommes tous voués un jour à faire le constat que ce qui est né avec nous commence à faire partie du patrimoine. Donc, vous avez nos encouragements, vous avez tout notre intérêt pour cette manifestation. Nous pensons qu'il y a un besoin de mieux connaître, comme je le disais peut-être, de davantage formaliser, mais aussi de comprendre le mouvement, de peut-être pas le cantonner aux politiques de la ville, ce qu'on a peut-être souvent fait, de prendre conscience du fait que c'est un mouvement qui maintenant se généralise, dans ces amateurs, il y a une forte diversification des classes sociales et de la pyramide des âges, des auditeurs et des amateurs de la culture hip-hop. Ce phénomène-là nous intéresse. Le hip-hop est devenu une industrie culturelle, à ce titre aussi, c'est intéressant pour le ministère. Et puis il y a enfin cette dimension d'accès à la culture pour tous qui concerne particulièrement mon équipe et que l'on conçoit bien, non pas comme simplement une possibilité d'accéder à une culture un peu figée, estampillée comme intéressante, mais bien la possibilité pour tout le monde de participer à la construction d'une culture qui, chaque jour, s'enrichit. Donc, je ne suis malheureusement avec vous que pour l'introduction, mais le représentant du département des études, de la prospective et des statistiques de mon équipe et du ministère de la Culture, Lou Wolf, ce n'est pas un nom de scène, hein, c'est vraiment le nom du chef du DEPS, sera avec vous aussi et très intéressé par vos travaux, que je vous souhaite fructueux et plein d'enthousiasme.
Merci beaucoup. Effectivement, Lou Wolf nous rejoindra au cours du colloque, comme beaucoup d'autres membres du ministère de la Culture qui, à titre personnel, se sont inscrits au même titre que d'autres participants et participantes. Et donc, on sait que les échanges avec les différentes équipes du ministère seront intenses au cours de ces jours. Je passe du coup la parole tout de suite à la Maison des Métallos, Philippe Mourat.
Oui, bonjour et donc bienvenue dans nos murs. Voilà, je voulais dire que nous sommes particulièrement heureux de la tenue de ce colloque ici et d'en être des collaborateurs actifs, parce que certes la partie scientifique appartient aux universitaires et aux contributeurs, mais il y a aussi tout un volet culturel que nous avons réfléchi et construit avec le comité d'organisation de ce colloque. Ça a vraiment du sens pour nous ici, c'est pas du tout parce que la salle est belle et qu'on est dans Paris intramuros, ça a vraiment du sens lié au projet de l'établissement. Cet établissement est d'abord pluridisciplinaire et si aujourd'hui on parle beaucoup, surtout musique, le mouvement hip-hop est un mouvement emblématique de ce que peut être un mouvement culturel et artistique pluridisciplinaire. Ensuite, nous sommes vraiment sur la question des expressions artistiques et des réflexions intellectuelles liées aux questions de société. Et il nous semble vraiment que le mouvement hip-hop est un grand témoin sur la fin du siècle dernier et le début de ce siècle de cette inscription d'une expression artistique dans les questions de société. Voilà, je suis aussi particulièrement content de cette collaboration à titre personnel parce que voilà 30 ans que j'accompagne le mouvement hip-hop, même un peu plus, alors surtout sur la danse, mais aussi sur les autres disciplines, et que voilà, je fais partie de cette génération qui, pendant des années, en tant que cadre culturel, s'est vue, il faut bien le dire, un peu méprisée quand on disait qu'on soutenait les disciplines du hip-hop sur les scènes. Voilà, donc on est content de voir qu'aujourd'hui, il y a une jeune génération de chercheurs universitaires qui s'emparent de cette question de ces mouvements culturels. Et on a eu une première réunion en juillet, je crois, début juillet, dans le cadre de Paris Hip Hop avec Karim et quelques-uns de ses collègues. Et on a été, enfin moi personnellement, j'étais assez enthousiasmé de voir qu'il y avait en particulier des chercheurs, des universitaires qui viennent du mouvement Hip Hop, c'est-à-dire qu'ils l'ont vécu dans leur jeunesse, dans leur enfance, et qui savent, j'ai envie de dire charnellement, de quoi il s'agit. Le mouvement hip-hop est vraiment régénérateur des esthétiques et de l'inscription de l'expression artistique dans nos sociétés, et c'est vraiment important qu'il y ait enfin, comme les American Studies aux États-Unis, qu'il y ait enfin en France un vrai mouvement de recherche sur cette question-là. Après, sur ce que vient de dire la représentante du ministère, évidemment, on est content que ça entre d'une certaine façon dans le patrimoine. Simplement, j'espère que vous serez tous et que les artistes en particulier seront particulièrement vigilants à ce que ça n'entre pas dans l'ossification, la stratification, la catégorisation outrancière et que ça reste un mouvement vivant, underground, dérangeant. Et parce que les politiques culturelles et notre société plus globalement ont vraiment besoin de ces mouvements qui sont au périmètre de l'art et puis qui finissent par entrer dans la famille artistique, mais qui le bousculent. Un chercheur qui travaille pas mal sur art et handicap disait que, qui s'appelle Claude Chalaguier, disait la marge nourrit la norme et la transforme. Et moi, je peux dire que j'ai assisté au cours de toute ma carrière professionnelle dans les arts et la culture au fait que le mouvement hip-hop a été vraiment représentatif, emblématique d'une marge qui a transformé la norme. Mais il faut continuer à transformer la norme et ne pas entrer dans le ronron des politiques culturelles qui finissent toujours, on sait, par parler d'excellence, parler de toutes ces normes et ces références qui finissent un peu par tuer les imaginaires et la vitalité et l'énergie. Voilà, je vous souhaite de bons travaux.
Merci beaucoup pour ces mots d'introduction et voilà ce regard de la Maison des Métallos qui a véritablement été plus qu'un accueil, un vrai partenaire. Et il faut dire que pour nous, c'était extrêmement important d'avoir un volet culturel à notre événement. Et la conception de cette dimension culturelle de ce colloque, elle a été possible grâce à la Maison des Métallos. Donc je profite pour vous remercier. Alors nous, on ne va pas faire très long, mais il nous semblait important quand même de poser un petit peu, d'expliquer un petit peu la genèse du colloque et aussi de revenir sur ses objectifs principaux. Alors, le point de départ du projet, on le connaît, c'est l'observation du fait que depuis plus de 40 ans, les musiques hip-hop et les esthétiques qu'elles portent, elles se sont imposées aux États-Unis, mais dans aussi le reste du monde où le hip-hop s'est diffusé. Et elles ont conduit, comme le disait bien Marilyn Laplace, à une grande diversification des industries culturelles. Parallèlement, et dans le même temps, le rap et les autres musiques hip-hop dont on souhaite parler pendant ce colloque sont devenus aussi, depuis maintenant plusieurs années, des objets de recherche au sein du monde universitaire et ils se sont avérés être véritablement des voies d'entrée particulièrement pertinentes pour aborder un ensemble de phénomènes, que ce soit dans le domaine social, culturel, politique, esthétique bien sûr, et ou pour les questions identitaires. Les chercheurs francophones, même si bien sûr le champ des hip-hop studies anglophones est beaucoup plus reconnu et s'est imposé comme un champ en tant que tel, il y a aussi des chercheurs francophones qui sont devenus partie prenante de ce domaine de recherche qui se développe aujourd'hui mondialement à propos du hip-hop et qui, comme je le disais, constitue depuis longtemps un domaine académique reconnu aux États-Unis. Alors aujourd'hui, si on s'amuse à faire une petite recherche bibliométrique sur des sites d'édition électronique, avec pour entrée thématique le nom de différentes musiques hip-hop, que ce soit rap ou R&B, on constate qu'entre 90 et 2016, les publications en langue française sur le hip-hop ne manquent vraiment pas. On retrouve 116 articles dans des revues scientifiques, 216 ouvrages académiques ou non académiques et 67 thèses qui ont été soutenues en langue française. Ces différents travaux relèvent d'approches scientifiques et d'approches disciplinaires très différentes, que ce soit dans le domaine de la sociologie, de l'anthropologie, de la sociolinguistique, de la littérature, aussi la géographie et de l'histoire, des sciences de l'éducation ou encore de la musicologie. Alors, ce qu'il faut noter quand même, c'est que durant une période en France, les écrits sur le hip-hop se cristallisaient beaucoup autour de discussions sur la banlieue et sur l'imaginaire auquel cet espace renvoie. A l'inverse, aujourd'hui, il y a tout un ensemble de mots-clés qu'on observe autour de ces écrits sur le hip-hop et qui témoignent, à notre sens, du large spectre de concepts et de discussions que les études sur le rap soulèvent désormais. Alors, pour vous donner une petite idée de ces différents mots-clés et concepts qui sont associés aux recherches sur le hip-hop, on parle de musique, on parle d'artistes, on parle de travail, d'État, du monde, de l'Afrique, de jeunes et de jeunesse, d'analyse, de politique, d'identité, de domination, du concept de scène, de masculinité ou de genre, d'authenticité ou encore d'institutionnalisation, autant d'éléments dont on va discuter pendant ces trois prochains jours. Ce qu'on souhaitait aussi relever, c'est qu'il y a des antécédents à notre événement et que depuis longtemps, l'université accueille ou participe à des conférences et des séminaires sur ces questions. Donc dès 1990 à l'université Paris 8, puis également dans ces dernières années, il y a eu une multiplication d'autres événements, notamment le colloque étudiant Sarap à la fac qui s'est tenu à Paris 3 en 2013, ou de l'autre côté de la France à Marseille, les chroniques de Mars qui se tenaient au MUSEM, de 2013 à 2015. Pourtant, malgré ces initiatives et ces travaux qui, comme on le voit, sont foisonnants, jusqu'à aujourd'hui, aucun colloque scientifique de grande ampleur n'avait été organisé pour réunir ces différents chercheurs travaillant sur les musiques hip-hop dans le monde francophone. Et plus globalement, il n'existait pas non plus, jusqu'à récemment, de réseaux et d'institutions qui relient ce champ de recherche en formation, ce qui conduit de fait à une certaine marginalité, ou en tout cas à une faible visibilité dans le monde académique de ce réseau de chercheurs. Donc nous, c'est en fait face à ce constat-là que l'idée de notre événement est née, au sein d'un comité d'organisation qui, il faut le dire, se compose de plusieurs personnes, même si on est juste deux aujourd'hui à introduire le colloque. Il y a six personnes qui ont organisé et qui se sont pleinement investies dans cet événement. Donc je vais citer les quatre autres personnes qui ne sont pas à la tribune, mais qui sont là-bas derrière en train de s'affairer. Emmanuel Carinos, Séverin Guillard, Virginie Milliot et Marie Sonnette. Donc, on peut les applaudir. Donc autour de nos discussions et de ces observations sur les différentes recherches qu'on menait, il nous a semblé désormais plus que nécessaire de commencer à rassembler et à fédérer davantage ce réseau de chercheurs qui s'intéressent aux musiques hip-hop dans le monde francophone. Alors en amont du colloque, il y a aussi un autre élément qui a précédé cette organisation, c'est la création d'une liste de diffusion, donc au début des années 2010, une liste de diffusion qui réunit des sociologues, des géographes, des sociolinguistes ou des anthropologues, autant de personnes qui travaillent sur le hip-hop dans le monde francophone. Donc cette liste, elle s'appelle HERC, en référence donc au nom d'un des deux pères fondateurs du mouvement hip-hop. Donc ça a été un premier pas. Et par la suite, l'idée du colloque, elle a plus précisément pris forme au courant de l'été 2015 pour mettre en place des échanges plus directs entre ces chercheurs qui, jusqu'à présent, étaient surtout réunis virtuellement au travers de cette liste de diffusion. Donc, pour ce colloque, quand on a commencé à organiser les choses, ce à quoi on tenait particulièrement, c'était à décloisonner l'étude du rap français pour inclure également dans notre événement l'étude d'autres pratiques musicales hip-hop, le R&B, le DJing, le beatbox, mais inclure et faire dialoguer aussi des travaux menés sur les musiques hip-hop dans d'autres contextes géographiques, par exemple sur le continent africain où il y a un foisonnement de recherches qui sont effectuées depuis maintenant une quinzaine d'années. De même, concernant la dimension disciplinaire, et c'était d'autant plus important de travailler avec la Maison des Métallos qui insiste justement sur cet aspect transdisciplinaire, on voulait aussi sortir de certaines approches cloisonnées pour faire dialoguer différents regards et différentes approches sur ces objets. Non,
mais c'est la parole. Merci. Donc notre projet était bien de construire un événement scientifique, vous l'aurez compris, mais ce n'était pas de nourrir l'image d'un monde académique qui opérerait en vase clos sur lui-même. C'est pourquoi nous trouvions essentiel de concevoir ce colloque en collaboration et en interaction avec des artistes et des professionnels, en premier lieu du hip-hop et au-delà. Et par ce biais, il s'agissait aussi de rappeler que les chercheurs sont des membres à part entière des sociétés dont ils font partie, des cultures hip-hop, et qu'ils ne sont pas situés en surplomb ou à côté de celles-ci. C'est pour cette raison que nous avons tenu à organiser cet événement hors les murs de l'université, ce que nous avons pu accomplir grâce à l'aide de la Maison des Métallos, que nous remercions d'ores et déjà très sincèrement, comme l'a fait avant moi Alice, et particulièrement Philippe Mourat, Christine Chalas, pour avoir accepté presque immédiatement de se joindre à notre projet, et Emma Cardone pour son suivi très efficace de son organisation. C'est aussi pour cela que nous avons souhaité inviter Kondo comme grand témoin. Merci Kondo, qui est dans la salle aujourd'hui et qu'on peut applaudir. Et c'est pour ça aussi qu'on a souhaité entrecouper les présentations d'universitaires par des tables rondes avec des artistes et des professionnels. Notre démarche répond ainsi à une certaine éthique professionnelle et politique, dans le rapport aux premiers concernés par les cultures hip-hop tout d'abord, mais aussi dans la prise en compte des conditions inégales d'exercice de la recherche et de légitimité scientifique et sociale inégale, donc entre ce qu'on appelle les titulaires et ce qu'on appelle les précaires dans le monde académique, et puis plus largement entre femmes et hommes, entre racisés et non racisés, etc. D'un mot peut-être attirer l'attention pour ceux et celles qui ne l'auraient pas relevé, le titre de ce colloque conçu pour durer, essayer de condenser un certain nombre de ces enjeux, et en particulier, c'était un clin d'œil appuyé à un album de hip-hop qui est sorti au milieu des années 90 et qui a marqué un tournant, album donc intitulé Conçu pour durer mais sans E, réalisé par le groupe La Clica, et dont Kondo était un membre. Conçu pour durer, c'était aussi une façon d'insister sur ce que Madame Laplace a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire l'enjeu de la pérennité et la légitime attente d'une institutionnalisation dans un certain nombre d'espaces du hip-hop, institutionnalisation qui ne doit pas aller avec sa complète normalisation, comme l'a rappelé Philippe Mourat. Finalement, ce colloque entend marquer une étape pour la légitimation du hip-hop dans le monde académique, mais il donne aussi l'occasion de réfléchir à la réception de l'objet hip-hop dans le champ académique et aux accueils tantôt frileux, voire clairement réticents, tantôt enthousiastes, voire idéalisés, auxquels on peut se confronter lorsque l'on fait du hip-hop son objet de recherche. Et ces regards, il faut dire que nous y sommes nous-mêmes parfois confrontés, et nous l'avons bien vu lors des premières prises de contact en vue de la réalisation de ce colloque, il y a de ça maintenant un an et demi. Cet accueil s'est d'abord manifesté Le projet, une fois lancé, a connu un bel accueil, et cet accueil s'est d'abord manifesté dans les réponses à l'appel à communication que nous avons fait circuler. Nous avons reçu presque 50 propositions de contributions, ce qui nous a conduit à faire un choix parfois difficile pour parvenir aux 27 présentations qui vous seront faites durant ces 3 jours de colloque. Nous commencerons donc par remercier les chercheuses et les chercheurs qui, par leur réponse à notre appel à contribution, ont prouvé l'attente qui existait pour un tel événement, et aussi les membres du comité scientifique pour leur intérêt immédiat pour notre projet et leur implication dans le conseil scientifique. Un accueil bienveillant s'est aussi retrouvé au sein de différentes institutions et personnalités qui ont accepté de devenir partenaires de notre événement, et nous tenons ainsi à les remercier dans cette introduction. On l'a déjà dit, la Maison des Métallos, évidemment, en premier lieu, le ministère de la Culture également, qui a répondu avec enthousiasme par le biais de Lou Wolf, le directeur du département études et prospectives statistiques du ministère de la Culture, à notre proposition. Et donc, j'en profite pour remercier ici à nouveau Marilyn Laplace, Lou Wolf et plusieurs membres de son équipe, dont certains seront présents dans ces jours, notamment Sylvie Octobre et Valérie Nelcha. Un autre partenaire central pour l'organisation de ce colloque a été le laboratoire CRESPA, qui a soutenu sans hésitation le projet dès ses débuts, et plus particulièrement les gestionnaires du CRESPA, Sandra Nicolas, Jérémy Deher et Vincent Farnéa, qui ont eu fort à faire avec le montage complexe, avec un grand nombre de partenaires, pour que les choses soient menées à bien. Tout un travail en coulisses comme ça, dont on ne parle pas souvent, mais qui fait qu'un colloque comme celui-là est rendu possible, et c'est beaucoup de paperwork, comme on dit, et de deadlines et de contraintes très complexes. Les autres soutiens sont également importants, la Commu Paris Lumière notamment, le Labex ICA, la MSH Paris Nord, qui ont toutes soutenu financièrement l'organisation de ce colloque. La Mairie de Paris également, les laboratoires Laburba, le Laïc, l'UFR Estua de l'Université d'Angers, le LESC, l'association du côté maintenant des acteurs du hip-hop, nous tenons à saluer tout particulièrement l'association Hip-Hop Citoyen, qui a été d'un grand soutien tout au long de l'organisation du festival, sur des tâches que peut-être ils maîtrisaient mieux que nous en termes de communication, en termes de prise de contact avec des artistes et les acteurs du mouvement hip-hop, et aussi les saluer pour les 2 tables rondes qui ont été organisées en amont de ce colloque et ont contribué à amorcer les choses, les rencontres, les réflexions, et aussi à construire la visibilité. La première, Philippe Moura l'a rappelé, c'était à la Maison des Métallos lors du dernier festival Paris Hip-Hop, et la seconde, c'était lors des Hip-Hop Winter au mois de décembre dernier. Nous tenions également à remercier Laplace, Centre culturel hip-hop, auquel nous allons nous retrouver ce soir. La revue Volume donc, intitulée La revue des musiques populaires, qui est partenaire de l'événement et qui a abondamment relayé l'appel à contribution et la tenue de l'événement dans ses pages. Et enfin, une nouvelle fois, l'ensemble des participants au colloque, et notamment nos 3 conférenciers et conférencières, Kondo, qu'on écoutera vendredi, Sujata Fernandez, qui parlera demain, et Murray Forman, à qui nous allons tout de suite laisser la parole. Merci.